Vous nous avez expliqué, enfin madame, que la force de cet hindouisme militant fait régresser la situation de la femme. Est-ce que, parallèlement, il y a aussi une réduction de la situation des intouchables? Parce que d'après la Constitution, il ne doit pas y avoir de différence, mais il semble, d'après ce que je crois savoir, que dans la réalité, les intouchables restent une caste inférieure à part. Est-ce que cette hindouisation actuelle accentue encore cette maltraitance, si on peut dire comme ça?
Si, il y a les deux. D'un côté, il y a un effort pour réduire un peu la maltraitance des intouchables. Parce que ce mouvement voudrait un peu unifier les hindous contre les musulmans, contre les chrétiens. Mais en même temps, les intouchables sont victimes de violences. Donc c'est un peu ambigu pour le moment, un effort pour intégrer les musulmans intouchables dans l'hindouisme et de l'autre côté de continuer la ségrégation. Et je pense que ça va continuer pendant encore longtemps.
J'ai l'impression que la mondialisation, que ce soit ici ou que ce soit en Inde ou que ce soit dans les pays musulmans, désoriente toute une série, toute une partie importante de la population, et que les extrémistes religieux justement ont beau jeu parce que ils se présentent comme les défenseurs d'une identité qui est éternelle. Et je me demande par rapport à cela ce que va devenir la guérilla rurale qui perdurait en Inde depuis des années. Est-ce que vous avez des éléments à nous fournir à ce niveau-là? Est-ce que ça continue? Est-ce que ça régresse? Est-ce que ça s'amplifie encore?
À mon avis, ça continue et ça ne régresse pas.
Et on en parle dans les médias officiels ou si c'est le silence total?
Non, on parle dans les médias officiels.
Parce que chez nous, je suis sûr que si vous faites une enquête en France, le nombre de Français qui ont entendu parler de la guérilla rurale en Inde est extrêmement limité.
En Inde, c'est relativement limité, mais je dirais que surtout du côté de Bihar et Orissa, oui. Il y a un militantisme plus grand. Ce n'est pas répandu dans toute l'Inde, mais dans certaines parties de l'Inde, je dirais Orissa, Bihar, ça augmente.
Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette poussée du fondamentalisme religieux ne peut qu'encourager finalement ce type de mouvement? Mouvement guérilla paysanne, mouvement. On a bien vu en particulier les résistances déjà maintenant soutenues par ces guérillas, et bien des paysans qui s'opposent à ce qu'on leur prenne leur terre, par exemple pour des usines, pour y construire des usines, pour faire ceci ou cela, mais c'est beaucoup plus important en fait.
Non, vous avez raison dans ce sens que les deux choses, je dirais, oui, sont presque concomitantes. Oui. D'un côté, il y a un effort, et surtout il y avait un effort pour prendre les terres. Et là où on essaye de prendre les terres, il y a la guérilla qui augmente, qui est là, qui est présente. Mais je ne dirais pas que c'est vraiment plus fort, mais les deux mouvements sont là.
Et pourquoi le gouvernement prend les terres? Pourquoi le gouvernement prend des terres des paysans?
Les entreprises.
Le gouvernement prend?
Prend les terres des paysans.
Pour les multinationales.
Si, et ça c'est un gros problème. Je voulais mentionner et j'ai oublié de mentionner. Comme l'importance est donnée à l'industrialisation et aux coopérations avec les multinationales. Alors, et les entreprises indiennes et les multinationales veulent entrer dans des termes les plus avantageux. Si vous voulez commencer une usine, vous devez acheter de la terre. Et la terre coûte très cher en Inde. Or, une des façons d'éviter cet écueil de la résistance des paysans à l'achat de aux terres, c'est prendre leurs terres. Même si les paysans ne veulent pas vendre leurs terres, le gouvernement prend les terres et leur donne le prix du marché trois fois plus que le prix du marché. Et on fait ce qu'on appelle « economic zones ». Les economic zones sont de vastes, de centaines de milliers d'acres, où le gouvernement prend toute la terre. Bonne terre, mauvaise terre, petit paysan, grand paysan, tout est pris dans d'une façon planifiée. Et le gouvernement, à son tour, donne cette terre aux industries et aux multinationales. Et ce gouvernement, le gouvernement de Modi, va utiliser ce système, a déjà utilisé, va utiliser ce système pour prendre la terre et diminuer la résistance paysanne. On va prendre énormément de terre.
Il faut éviter que les paysans se regroupent parce que s'ils se regroupent, ils peuvent se défendre. Donc on achète le terrain, des fois, à prix du gouvernement. Il y avait eu une marche à Besançon qui faisait appel, qui faisait référence à une autre marche qui était en Inde. Avec Raja Gopal, il y a 4-5 ans, je ne sais plus, la semaine de la solidarité internationale, il y a 2 ans.
Il y a deux ans.
Deux ans seulement.
Oui, oui. Et tout dernièrement aussi.
Il y a fait une marche ici aussi à Besançon, entre autres. Parce que quand on parle de guérilla, ça va être une guérilla, mais c'est quand même des paysans qui se défendent.
Oui, non, mais je ne dis pas qu'une guérilla a tort de faire la guérilla.
C'est comme ça que finalement, moi je me dis derrière le fondamentalisme, c'est peut-être quand même quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que c'est une réaction, parce qu'on est impuissant devant les multinationales, et je pense que ça favorise ces mouvements qui deviennent extrémistes. Et je pense que c'est aussi là qu'il faut qu'on cherche à la fois inter-peuple, inter-peuple, pour trouver des solutions contre ces marchandisations.
Et il y a aussi le fait que si les entreprises négocient avec les propriétaires, soit ils leur refuseraient de donner la terre, vendre la terre, ou s'ils refusaient, ils demanderaient un coût très élevé. Tandis que le gouvernement prend les terres et ensuite les donne aux entreprises locales ou aux multinationales. Pardon ?
Le gouvernement n'achète pas les terres.
Le gouvernement prend les terres, paye les paysans qui ont perdu la terre, et ensuite il donne les terres aux entreprises nationales et multinationales. Et en anglais, on appelle ça « economic zones ». Et le gouvernement de Modi ne sait pas comment commencer combien d'economic zones. Toutes sortes de systèmes, par exemple, il y a un couloir Delhi-Bombay. Delhi est industrialisé, Bombay est industrialisé. Entre les deux, il y avait beaucoup de terres qui n'étaient pas, qui étaient cultivées. Maintenant, toutes ces terres vont être prises par le gouvernement et on va avoir un couloir industriel qui va de Bombay à Delhi. Ça sera une zone immense. On peut faire ça par intervention du gouvernement. Si c'était les entreprises à contact des entreprises à entreprises, serait très difficile ou presque impossible.
Est-ce qu'il y a une opposition en Inde? Est-ce qu'il y a des partis d'opposition?
Il y a le parti d'opposition, vous voyez, c'est une histoire aussi un peu, je dirais, aujourd'hui ça semble drôle. Et le parti du Congrès s'oppose à ça aujourd'hui. Avant, le parti du Congrès faisait cette même politique. Il n'y a pratiquement pas de parti d'opposition, à part le parti du Congrès, qui s'oppose à cette prise de terre par le gouvernement.
En Inde, il y a plusieurs États. Quelle est la marge d'autonomie d'un État par rapport à l'État central,
oui,
pour la gestion de l'économie?
Je dirais, par exemple, ce gouvernement donne l'impression de promouvoir l'autonomie des États. Le gouvernement du Congrès n'essayait pas de promouvoir l'autonomie des États, mais l'autonomie des États, c'est constitutionnel. Et donc, on la respecte jusqu'à certains points. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on essaye de promouvoir, par exemple, l'industrialisation, et ce gouvernement fait ça beaucoup, par l'intermédiaire des États. Par exemple, si le parti du Jansan a la majorité au centre, et s'il a des gouvernements du même parti dans les États, tout ce parti, à travers ce parti, essaiera de promouvoir la même politique. Il essaie de promouvoir la même politique.
Et une autre question, oui, à propos de l'économie. L'Inde est encore un pays très largement rural.
Oui.
Le poids de l'agriculture compte beaucoup.
Oui.
On a entendu parler, et je pense moins maintenant, du nombre de suicides de paysans qui absorbaient des produits Monsanto parce qu'ils étaient acculés à la ruine. Est-ce que ce phénomène réduit? Quel est le poids de la multinationale Monsanto dans, oui, l'agriculture indienne actuellement?
Dans le mois de... Il y a un mois, il y a eu dans notre état, Karnataka, 1000 suicides. Un seul mois.
Et un seul État.
Un seul État. Et un seul mois. Donc les suicides de paysans continuent. Ils continuent, et peut-être même augmentent. Et dans notre État n'était pas gouverné par le BJP. Il était gouverné par le Congrès, parti d'opposition. Et ne faisait que prendre les terres. Et comme je dis, il y a eu, dans notre État, avant c'était en moyenne 1000 suicides, mais dans notre État, en un mois, il y a eu 1000 suicides de petits fermiers, de petits paysans.
Au niveau du foncier, est-ce que, comme dans certains endroits du monde, il y a des gens qui vivent sur des terres sans droit de propriété, sans papier de propriété?
Oui. Par exemple, les tribaux vivent de terres.
Oui, sur des terres sans avoir de...
le droit de propriété.
Donc ceux-là, ils sont très vulnérables.
Beaucoup d'intouchables, ouais, cultivent les terres sans avoir droit de propriété. Et souvent, quand le gouvernement, par exemple, prend des terres, souvent ces populations sont visées et on essaye de les expulser et prendre leurs terres. Donc il y a des gens qui ont cultivé des terres pendant des années, et tout à coup se voient privés de leurs terres. Notre association travaille avec des populations tribales. Une des choses, c'est promouvoir le droit à la terre, soit à la terre qu'il cultive, soit à la terre qu'il pourrait réclamer. Ça, c'est une autre chose. Il y a aussi une autre loi que nous essayons de défendre. C'est du temps des Anglais, vers la fin de l'Empire, les Anglais, en partie pour diviser le mouvement d'indépendance, avaient introduit un droit qui s'appelle Panchmi Land. Et les Dalits, les intouchables, qui normalement n'avaient pas le droit à la terre, d'après la caste, oui, avaient le droit à la terre. Ce qui s'est passé, c'est souvent leur terre, comme la terre de tribu, leur avait été donnée, mais était cultivée par les gens de caste. Et nous avons des cas où les Dalits qui étaient propriétaires, leur terre avait été accaparée par les gens, par les propriétaires, par les castes supérieures, et eux qui étaient propriétaires travaillaient comme travailleurs dans leur propre ferme. Nous avons ça à Vilipuram, dans le Tamil Nadu. Nous avons aussi ça dans l'état de Mysore. Oui? Et ça, ce sont des choses extrêmes. Et ce que nous faisons, c'est un mouvement de Dalits, un mouvement de tribu pour réclamer ces terres.
Et pour revenir entre le fondamentalisme et la multinationale, est-ce qu'il existe des rapports de corruption entre les deux ou pas ?
Non, à mon avis, peut-être il y a des... Mais ce que je voulais dire d'abord, peut-être il y a aussi des rapports de corruption. Mais ce que je voulais dire, par exemple, je donnerai un exemple. Le gouvernement a pris, je ne sais pas combien, de centaines d'hectares de terres de Dalits, d'intouchables. Oui. Et pour commencer une multinationale, et commencer une entreprise. Ce qui arrive, c'est que souvent la résistance des intouchables, la résistance de tribus, est plus faible. Donc le gouvernement, quand il prend des terres, prend de préférence des terres des intouchables et de tribus. Il y aura aussi quelques gens qui sont de petits paysans, etc. Mais donc, la grande majorité sera de tribus intouchables. Les mobiliser aussi, c'est un peu difficile. Mais ce que nous faisons, c'est mobiliser ces gens pour résister l'accaparement de terres.